Alphonse Daudet, Le Petit Chose, première partie. Chapitre 6, Les Petits. Cela n'était pas méchant, c'était les autres. Cela ne me firent jamais de mal, et moi, je les aimais bien, parce qu'ils ne sentaient pas encore le collège et qu'on lisait toute leur âme dans leurs yeux. Je ne les punissais jamais. À quoi bon? Est-ce qu'on punit les oiseaux? Quand ils pépillaient trop haut, je n'avais qu'à crier « Silence !» Aussitôt, ma volière se taisait, au moins pour 5 minutes. Le plus âgé de l'étude avait 11 ans. 11 ans, je vous demande. Et le gros serrière qui se vantait de les mener à la baguette. Moi, je ne les menais pas à la baguette. J'essayais d'être toujours bon. Voilà tout. Quelquefois, quand ils avaient été bien sages, je leur racontais une histoire. Une histoire, quel bonheur! Vite, vite, on pliait les cahiers, on fermait les livres, on criait, règles, porte-plumes, on jetait tout pêle-mêle au fond des pupitres. Puis, les bras croisés sur la table, on ouvrait de grands yeux et on écoutait. J'avais composé à leur intention 5 ou 6 petits contes fantastiques. Les débuts d'une cigale, les infortunes de Jean Lapin, etc. Alors, comme aujourd'hui, le bonhomme Lafontaine était mon saint de prédilection dans le calendrier littéraire et mes romans ne faisaient que commenter ses fables. Seulement, j'y mêlais de ma propre histoire. Il y avait toujours un pauvre grillon obligé de gagner sa vie comme le petit chose, des bêtes à bon Dieu qui cartonnaient en sanglotant, comme Essette, Jacques. Cela amusait beaucoup mes petits, et moi aussi cela m'amusait beaucoup. Malheureusement, M. Viot n'entendait pas qu'on s'amusât de la sorte. 3 ou 4 fois par semaine, le terrible homme aux clés faisait une tournée d'inspection dans le collège pour voir si tout s'y passait selon le règlement. Or, un de ces jours-là, il arriva dans notre étude juste au moment le plus pathétique de l'histoire de Jean Lapin. En voyant entrer M. Viot, toute l'étude tressauta. Les petits, effarés, se regardèrent. Le narrateur s'arrêta court. Jean Lapin, interdit, resta une patte en l'air en dressant de frayeur ses grandes oreilles. Debout devant ma chaire, le souriant M. Viot promenait un long regard d'étonnement sur les pupitres dégarnis. Il ne parlait pas, mais ses clés s'agitaient d'un air féroce. « Frink, 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 tas de drôles ! On ne travaille donc plus ici !» J'essayais tout tremblant d'apaiser les terribles clés. « Ces messieurs ont beaucoup travaillé ces jours-ci, balbutiai-je. J'ai voulu les récompenser en leur racontant une petite histoire. » M. Viot ne me répondit pas. Il s'inclina en souriant, fit gronder ses clés une dernière fois et sortit. Le soir, à la récréation de 4 heures, il vint vers moi et me remit, toujours souriant, toujours muet, le cahier du règlement ouvert à la page 12, « Devoir du maître envers les élèves ». Je compris qu'il ne fallait plus raconter d'histoire, et je n'en racontais plus jamais. Pendant quelques jours, mes petits furent inconsolables. Jean Lapin leur manquait, et cela me crevait le cœur de ne pouvoir le leur rendre. Je les aimais tant, si vous saviez, ces gamins-là. Jamais nous ne nous quittions. Le collège était divisé en 3 quartiers très distincts, les grands, les moyens, les petits. Chaque quartier avait sa cour, son dortoir, son étude. Mes petits étaient donc à moi, bien à moi. Il me semblait que j'avais 35 enfants. À part cela, pas un ami. M. Viot avait beau me sourire, me prendre par le bras aux récréations, me donner des conseils au sujet du règlement. Je ne l'aimais pas, je ne pouvais pas l'aimer. Ses clés me faisaient trop peur. Le principal, je ne le voyais jamais. Les professeurs méprisaient le petit chose et le regardaient du haut de leur toque. Quant à mes collègues, La sympathie que l'homme aux clés paraissait me témoigner me les avait aliénées. D'ailleurs, depuis ma présentation au sous-officier, je n'étais plus retourné au café Barbette, et ces braves gens ne me le pardonnaient pas. Il n'y avait pas jusqu'au portier Cassagne et au maître d'armes Roger qui ne fussent pas contre moi. Le maître d'armes, surtout, semblait m'en vouloir terriblement. Quand je passais à côté de lui, il frisait sa moustache d'un air féroce et roulait de gros yeux, comme s'il avait voulu sabrer un sang d'arabe. Une fois, il dit très haut à Cassagne en me regardant qu'il n'aimait pas les espions. Cassagne ne répondit pas, mais je vis bien à son air qu'il ne les aimait pas non plus. De quels espions s'agissait-il? Cela me fit beaucoup penser. Devant cette antipathie universelle, j'avais pris bravement mon parti. Le maître des moyens partageait avec moi une petite chambre au troisième étage, sous les combles. C'est là que je me réfugiais pendant les heures de classe. Comme mon collègue passait tout son temps au café Barbette, la chambre m'appartenait. C'était ma chambre, mon chez-moi. À peine rentré, je m'enfermais à double tour. Je traînais ma malle, il n'y avait pas de chaise dans ma chambre, devant un vieux bureau criblé de taches d'encre et d'inscriptions au canif, j'étalais dessus tous mes livres, et à l'ouvrage. Alors, on était au printemps. Quand je levais la tête, je voyais le ciel tout bleu et les grands arbres de la cour déjà couverts de feuilles. Au dehors, pas de bruit. De temps en temps, la voix monotone d'un élève récitant sa leçon, une exclamation du professeur en colère, une querelle sous le feuillage entre moineaux, puis tout rentrait dans le silence, le collège avait l'air de dormir. Le petit chose, lui, ne dormait pas. Il ne rêvait pas même, ce qui est une adorable façon de dormir. Il travaillait, travaillait sans relâche, se bourrant de grec et de latin, à se faire sauter la cervelle. Quelquefois, au plein cœur de son aride besogne, un doigt mystérieux frappait à la porte. « Qui est là ? C'est moi, la muse, ton ancienne amie, la femme du cahier rouge. Ouvre-moi vite, petit chose. » Mais le petit chose se gardait d'ouvrir. Il s'agissait bien de la muse, ma foi. Au diable le cahier rouge. L'important pour le quart d'heure était de faire beaucoup de thèmes grecs, de passer licencié, d'être nommé professeur et de reconstruire au plus vite un beau foyer tout neuf pour la famille Essette. Cette pensée que je travaillais pour la famille me donnait un grand courage et me rendait la vie plus douce. Ma chambre elle-même en était embellie. « Oh, mansarde, chère mansarde, quelles belles heures j'ai passées entre tes quatre murs. Comme j'y travaillais bien, comme je m'y sentais brave. Si j'avais quelques bonnes heures, j'en avais de mauvaises aussi. Deux fois par semaine, le dimanche et le jeudi, il fallait mener les enfants en promenade. Cette promenade était un supplice pour moi. D'habitude, nous allions à la prairie, une grande pelouse qui s'étend comme un tapis au pied de la montagne, à une demi-lieue de la ville. Quelques gros châtaigniers, trois ou quatre guinguettes peintes en jaune, une source vive coulant dans le vert, faisaient l'endroit charmant et gai pour l'œil. Les trois études s'y rendaient séparément. Une fois là, on les réunissait sous la surveillance d'un seul maître, qui était toujours moi. Mes deux collègues allaient se faire régaler par des grands dans les guinguettes voisines, et comme on ne m'invitait jamais, je restais pour garder les élèves. Un dur métier dans ce bel endroit. Il aurait fait si bon s'étendre sur cette herbe verte, dans l'ombre des châtaigniers, et se griser de serpolets en écoutant chanter la petite source. Au lieu de cela, il fallait surveiller, crier, punir. J'avais tout le collège sur les bras. C'était terrible. Mais le plus terrible encore, ce n'était pas de surveiller les élèves à la prairie, c'était de traverser la ville avec ma division, la division des petits. Les autres divisions emboîtaient le pas à merveille et sonnaient des talons comme de vieux grognards. Cela sentait la discipline et le tambour. Mes petits, eux, n'entendaient rien à toutes ces belles choses. Ils n'allaient pas en rang, se tenaient par la main et jacassaient le long de la route. J'avais beau leur crier « Gardez vos distances !» Ils ne me comprenaient pas et marchaient tout de travers. J'étais assez content de ma tête de colonne. J'y mettais les plus grands, les plus sérieux, ceux qui portaient la tunique. Mais à la queue, quel gâchis, quel désordre! Une marmaille folle, des cheveux ébouriffés, des mains sales, des culottes en lambeaux. Je n'osais pas les regarder. « Desinint in pissem !» me disait à ce sujet le souriant Monsieur Viot, homme d'esprit à 16 heures. Le fait est que ma queue de colonne avait une triste mine. Comprenez-vous mon désespoir de me montrer dans les rues de Sarlande en pareil équipage, et le dimanche surtout? Les cloches carillonnaient. Les rues étaient pleines de monde. On rencontrait des pensionnats de demoiselles qui allaient à vêpres, des modistes en bonnet rose, des élégants en pantalon gris perle. Il fallait traverser tout cela avec un habit râpé et une division ridicule. Quelle honte! Parmi tous ces diablotins ébouriffés que je promenais 2 fois par semaine dans la ville, il y en avait un surtout, un demi-pensionnaire, qui me désespérait par sa laideur et sa mauvaise tenue. Imaginez un horrible petit avorton, si petit que c'en était ridicule. Avec cela, disgracieux, sale, mal peigné, mal vêtu, sentant le ruisseau, et pour que rien ne lui manquât, affreusement bancal. Jamais pareil élève, s'il est permis toutefois de donner à ça le nom d'élève, ne figura sur les feuilles d'inscription de l'université. C'était à déshonorer un collège. Pour ma part, je l'avais pris en aversion, et quand je le voyais, les jours de promenade, se dandiner à la queue de la colonne avec la grâce d'un jeune canard, il me venait des envies furieuses de le chasser à grands coups de botte pour l'honneur de ma division. Bamban, nous l'avions surnommé Bamban à cause de sa démarche plus qu'irrégulière, Bamban était loin d'appartenir à une famille aristocratique. Cela se voyait sans peine à ses manières, à ses façons de dire, et surtout aux belles relations qu'il avait dans le pays. Tous les gamins de Sarlande étaient ses amis. Grâce à lui, quand nous sortions, nous avions toujours à nos trousses une nuée de polissons qui faisaient la roue sur nos derrières, appelaient Bamban par son nom, le montraient du doigt, lui jetaient des pots de châtaigne et 1000 autres bonnes singeries. Mes petits s'en amusaient beaucoup, mais moi, je ne riais pas. Et j'adressais chaque semaine au principal un rapport circonstancié sur l'élève Bamban et les nombreux désordres que sa présence entraînait. Malheureusement, mes rapports restaient sans réponse, et j'étais toujours obligé de me montrer dans les rues en compagnie de Monsieur Bamban, plus sale et plus bancal que jamais. Un dimanche, entre autres, un beau dimanche de fête et de grand soleil, il m'arriva pour la promenade dans un état de toilette tel que nous en fûmes tous épouvantés. Vous n'avez jamais rien rêvé de semblable. Des mains noires, des souliers sans cordon, de la boue jusque dans les cheveux, presque plus de culottes. Un monstre. Le plus risible, c'est qu'évidemment on l'avait fait très beau ce jour-là avant de me l'envoyer. Sa tête, mieux peignée qu'à l'ordinaire, était encore roide de pommade et le nœud de cravate avait je ne sais quoi qui sentait les doigts maternels. Mais il y a tant de ruisseaux avant d'arriver au collège. Bamban s'était roulé dans tous. quand je le vis prendre son rang parmi les autres, paisible et souriant comme si de rien n'était, j'eus un mouvement d'horreur et d'indignation. Je lui criai « Va-t'en !» Bamban pensa que je plaisantais et continua de sourire. Il se croyait très beau ce jour-là. Je lui criai de nouveau « Va-t'en ! Va-t'en !» Il me regarda d'un air triste et soumis, son œil supplié, mais je fus inexorable et la division s'ébranla, le laissant seul, immobile, au milieu de la rue. Je me croyais délivré de lui pour toute la journée, lorsqu'au sortir de la ville, des rires et des chuchotements à mon arrière-garde me firent retourner la tête. À 4 ou 5 pas derrière nous, Bamban suivait la promenade gravement. « Doublez le pas !» dis-je aux deux premiers. Les élèves comprirent qu'il s'agissait de faire une niche au bancal et la division se mit à filer d'un train d'enfer. De temps en temps, on se retournait pour voir si Bamban pouvait suivre et on riait de l'apercevoir là-bas, bien loin, gros comme le poing, trottant dans la poussière de la route au milieu des marchands de gâteaux et de limonades. Cet enragé-là arriva à la prairie presque en même temps que nous. Seulement, il était pâle de fatigue et tirait la jambe à faire pitié. J'en eus le cœur touché, et, un peu honteux de ma cruauté, je l'appelai près de moi doucement. Il avait une petite blouse fanée, à carreaux rouges, la blouse du petit chose au collège de Lyon. Je la reconnus tout de suite, cette blouse, et dans moi-même je me disais « Misérable, tu n'as pas honte, c'est toi, le petit chose, que tu t'amuses à martyriser ainsi !» Et plein de larmes intérieures, je me mis à aimer de tout mon cœur ce pauvre déshérité. Bamban s'était assis par terre, à cause de ses jambes qui lui faisaient mal. Je m'assis près de lui. Je lui parlai, je lui achetai une orange. J'aurais voulu lui laver les pieds. À partir de ce jour, Bamban devint mon ami. J'appris sur son compte des choses attendrissantes. C'était le fils d'un maréchal ferrant qui, entendant vanter partout les bienfaits de l'éducation, se saignait les 4 membres, le pauvre homme, pour envoyer son enfant demi-pensionnaire au collège. Mais hélas, Bamban n'était pas fait pour le collège, et il n'y profitait guère. Le jour de son arrivée, on lui avait donné un modèle de bâton en lui disant « Fais des bâtons !» Et depuis 1 an, Bamban faisait des bâtons. Et quel bâton, grand Dieu ! Tortue, sale, boiteux, clopinant ! Des bâtons de Bamban. Personne ne s'occupait de lui. Il ne faisait spécialement partie d'aucune classe. En général, il entrait dans celle qu'il voyait ouverte. Un jour, on le trouva en train de faire ses bâtons dans une classe de philosophie. Un drôle d'élève, ce Bamban. Je le regardais quelquefois à l'étude, courbé en deux sur son cahier, suant, soufflant, tirant la langue, tenant sa plume à pleine main, et appuyant de toutes ses forces, comme s'il eût voulu traverser la table. À chaque bâton, il reprenait de l'encre, et à la fin de chaque ligne, il rentrait sa langue et se reposait en se frottant les mains. Bamban travaillait de meilleur cœur, maintenant que nous étions amis. Quand il avait terminé une page, il s'empressait de gravir ma chaire à 4 pattes, et posait son chef-d'œuvre devant moi sans parler. Je lui donnais une petite tape affectueuse en lui disant « C'est très bien !» C'était hideux, mais je ne voulais pas le décourager. De fait, peu à peu, les bâtons commençaient à marcher plus droit, la plume crachait moins, et il y avait moins d'encre sur les cahiers. Je crois que je serais venu à bout de lui apprendre quelque chose. Malheureusement, la destinée nous sépara. Le maître des moyens quittait le collège. comme la fin de l'année était proche, le principal ne voulut pas prendre un nouveau maître. On installa un rhétoricien à barbe dans la chaire des petits, et c'est moi qui fus chargé de l'étude des moyens. Je considérai cela comme une catastrophe. D'abord, les moyens m'épouvantaient. Je les avais vus à l'œuvre les jours de prairie, et la pensée que j'allais vivre sans cesse avec eux me serrait le cœur. Puis il fallait quitter mes petits, mes chers petits que j'aimais tant. Comment serait pour eux le rhétoricien à barbe? Qu'allait devenir Bamban? J'étais réellement malheureux. Et mes petits aussi se désolaient de me voir partir. Le jour où je leur fis ma dernière étude, il y eut un moment d'émotion quand la cloche sonna. Ils voulurent tous m'embrasser. Quelques-uns même, je vous assure, trouvèrent des choses charmantes à me dire. Et Bamban? Bamban ne parla pas. Seulement, au moment où je sortais, il s'approcha de moi tout rouge et me mit dans la main, avec solennité, un superbe cahier de bâtons qu'il avait dessiné à mon intention. Pauvre Bamban!